Bon, d'abord, je dirais que d'un point de vue auquel nous avons à faire face quand nous traitons de la coopération du travail, d'un point de vue moderne et non archéo, paléo, je dirais smithien, c'est tout simplement la production à partir non pas de l'échange, mais de quelque chose qui néanmoins ne se laisse pas réduire à la théorie classique du travail et du capital. Pourquoi nous devons le faire? Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en ce moment dans l'économie traditionnelle quand elle a affaire à la croissance, c'est-à-dire quand elle pense, c'est-à-dire je fais allusion aux théories de la croissance endogène. Alors, les externalités, au fond, me permettent, depuis un certain temps, d'analyser un certain nombre de points. Je les ai utilisés sur la question des pauvres et de la mobilité et du salariat, dans ma thèse. Je les ai utilisés concurremment à la recherche qu'on avait faite avec Maurizio et Tony sur le sentier et les territoires, en arrivant à l'idée que les entreprises étaient prédatrices d'externalités. Et là, en fait, je vous propose de les utiliser à deux points nouveaux, c'est-à-dire d'un côté pour penser ce qu'est la globalisation et la financiarisation, et deuxièmement pour repérer quels sont les traits spécifiques du capitalisme cognitif. Alors, bien entendu, je rappelle que les externalités, dans la définition, parce que l'apparition du thème date en économie politique du problème de la croissance, c'est-à-dire à partir de la révolution marginaliste, qui au fond consiste à ne plus s'intéresser à l'accumulation, comme l'avait bien vu Lewis, mais au surplus d'accumulation, c'est-à-dire à raisonner sur les marges, la quantité nouvelle de capital, la quantité nouvelle de travail, et de laisser tomber tout le reste. Ce qui avait déjà d'ailleurs commencé avec Ricardo et la théorie de la, si vous voulez, de la rente toujours relative et jamais absolue. Mais disons que cette transformation, si vous voulez, apparaît avec Marshall et s'est prolongée quand les économistes ont commencé à penser comme par hasard la dépense sociale, je pense à Pigou, qui est le premier à avoir développé une économie du bien-être, du welfare, à Rosenstein, Rodin, qui a travaillé sur les problèmes de du développement et des goulots d'étranglement dans les matrices input-output qu'avait développé Leontief, puis Hamid, Sitovski et enfin Arrow, quand Arrow s'est intéressé à l'apprentissage et à l'éducation. Alors comme par hasard, si vous regardez dès qu'on sort du domaine bestial et bébête de l'entreprise, c'est-à-dire dès qu'on touche des objets un petit peu complexes, l'économie néoclassique et l'économie classique sont obligées de recourir à ce concept. On verra un peu, j'en conviens un peu tort simplement, que toute interaction ou transaction, et j'insiste, interaction et pas simplement transaction. Parce que si vous dites transaction, toute transaction d'interaction, vous supposez qu'il n'y a pas d'externalité quand il y a des échanges à enjeux économiques qui se produisent dans une sphère non marchande. Donc, dès que toute interaction ou transaction, qu'elle soit marchande ou non, entre deux agents, occasionne une augmentation, une diminution du bien-être d'un tiers agent ou de n tiers agents, c'est-à-dire un nombre indéfini d'agents. Ça peut être 1000 à 1000. On a production d'un effet soit externe positif, soit négatif. Et j'ai rappelé, je vous ai donné le schéma, donc ceux qui n'ont pas le papier, là j'ai encore des trucs si vous voulez les schémas. Ça, voilà, il y en a quelques-uns qu'on peut faire circuler pour ceux qui n'ont pas eu le papier. Alors, là, le cas des externalités simples, joli casse-tête pour l'économie traditionnelle. Je vous rappelle que pour l'économie traditionnelle, l'ennemi c'est l'interaction, l'interdépendance. Une interaction non marchande fout le bordel complet dans la possibilité d'atteindre un optimum dans l'allocation des facteurs. donc sans avec external recto et pas d'équilibre général. Mais je me suis amusé pour voir un second schéma que vous avez dans le papier, parce que finalement le schéma au départ sur lequel on pense l'externalité, il est extrêmement simple. Vous avez deux transactions entre deux agents dans la sphère marchande. Hein, si vous prenez le schéma, peut-être que tout le monde l'a, le premier schéma. Donc vous avez une transaction entre A et B sur la sphère marchande, c'est-à-dire échange de biens ou de services, suivi de contreflux monétaire. Et puis vous avez un effet externe. Un effet qui représente par la flèche externalité positive que j'ai mis sur un agent qui est hors marché. D'accord ? Bon. Et puis après, pour montrer qu'on peut aussi raisonner à l'intérieur du marché, entre l'agent C et l'agent D, parfaitement qu'une transaction, elle, symbolique, genre échange de conversation, à table, ou croyance, ou amour, ou confiance, quelque chose d'absolument non marchand, est un effet dans le secteur marchand, mais qui pourra aussi être situé dans le secteur non marchand. Alors, ça, c'est déjà assez compliqué, s'amuser. Mais alors, vous prenez le schéma 2, qui n'est pas le schéma 1, mais le schéma 2, où là, je me suis amusé à penser que les externalités soient produites envers d'autres, plusieurs agents, et d'intensité d'ailleurs variable. Vous voyez qu'immédiatement, c'est dans le schéma que j'ai exprimé là, bon, j'ai multiplié le nombre d'agents, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, et H, I. Bon. La taille des triangles, c'est un peu, on pourrait parler de l'intensité, si on ne peut pas les cardinaliser, de l'intensité des effets externes. Bon, il est clair que les situations sont abominablement complexes. Elles sont abominablement complexes pour le jeu de cubes de la théorie néoclassique. Abominablement complexes si on pense sur et les arborescences. C'est enfantin si on parle de ce qui se passe dans les cellules cérébrales. Parce qu'il se passe probablement à chaque neurone ce genre de multiples effets. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je prétends au-delà ? Qu'est-ce que je prétends, c'est que cette question nous permet de penser plusieurs choses. Elle nous permet en particulier, bon, je laisse la question des pauvres, je l'avais déjà illustré, donc j'y reviens pas, ou la question du salariat, mais en revanche, j'ai là développé le jetal, mais dans le papier, j'ai essayé de classer également les externalités, c'est-à-dire de penser que les externalités sont au fond, si vous voulez, avaient déjà été pensées par l'économie dans ce qu'on appelait les rentes. En fait, elle traduit de façon marchande une externalité, qu'elle soit positive ou négative. Mais, surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous cherchez le sens de la financiarisation, et que vous vous demandez pourquoi le système, quel est l'intérêt de la globalisation et de la financiarisation, eh bien c'est probablement que, en globalisant, par d'autres moyens de le faire qu'en essayant de fixer des valeurs et d'essayer de se mettre d'accord sur la distribution du prix d'un facteur à un facteur, du prix à un facteur en fonction de sa rareté seulement, eh bien, vous apercevez que, vraisemblablement, la globalisation ou financiarisation obéit à une nécessité pour le capitalisme de réabsorber, de tenter de réabsorber des éléments qui peuvent parfaitement, par exemple, correspondre à des déséquilibres. Le cas classique d'externalité, vous le savez bien, c'est dans l'exemple célèbre de l'article de Coase en 59, c'est un train, une locomotive qui a des escarbilles de charbon et qui met le feu à la plaine du Middle West, c'est-à-dire un transport, mettons, de marchandises ou de passagers, flanque régulièrement le feu à la récolte de blé sur des milliers d'hectares des paysans du Middle West. Et les paysans du Middle West subissent un dommage d'une transaction entre le transporteur et le client, et ce dommage peut à deux types, et c'est le point de départ de la réflexion de Coase, à deux types de prise en compte, soit le système de la réparation du dommage, soit le système de la réglementation. Et le système de la réparation du dommage peut intervenir par contrat ou par tentative de négociation sans passer par la justice, peut intervenir par décision de justice, et la réglementation peut intervenir suite à une décision de justice, ou peut intervenir de façon préventive quand un certain nombre de cas, par exemple d'externalités négatives, se sont multipliés et qu'il y a un dommage pour le bien-être en général, complètement le dommage des bien-être par des avantages concédés à un particulier. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans la partie 1 avec, qui correspond au tableau que vous avez, le schéma 3, le schéma 3 bis, etc., ça j'y reviens pas parce que je l'ai déjà dit, c'est de penser que, au fond, les sphères, si on définit la sphère de la production marchande au milieu, au centre, la sphère de la production non marchande qui l'entoure, la sphère de la reproduction non, dite non productive, et plus large qui est la sphère de l'activité, de la coopération, de la vie, de la culture, de la connaissance, mais également on pourrait parler de la biosphère, c'est-à-dire la production du vivant, eh bien les échanges ou les ponctions, qu'elles soient positives ou négatives, et leur sens va donner une valeur, un signe positif ou négatif, sont à la base, vraisemblablement, de l'actuellement de toutes les espèces de globalisation. Et c'est pour ça que je me suis amusé à faire un petit schéma des globalisations et à essayer de trouver, dans le tableau 2 bis de la page 12, j'ai essayé de voir comment on peut dire que la première globalisation dans le trait continu au CE est 7, 8, 9, cependant que la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui se déroule essentiellement dans la tentative de pomper, c'est-à-dire de tirer des externalités.